Donc je m'appelle Stéphane Cossé, je suis directeur adjoint de la communication des affaires publiques de RTE et je suis absolument ravi de contribuer, de participer à cette session sur ces questions énergétiques. On a souhaité, dans le cadre de cette session, aussi insister finalement sur le marché lui-même, hein, l'ouverture du marché, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche. Donc, des questions un peu pratiques finalement, au-delà de la philosophie, hein, que je crois que vous avez abordée aujourd'hui, au-delà des grandes questions européennes et des grandes questions stratégiques, et bien finalement, le quotidien de ce marché, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, vous le savez, le marché avant la libéralisation, pour prendre le cas de l'électricité en particulier, c'était au tout début d'abord des petits réseaux qui existaient en fonction de l'existence de centrales électriques. Il y avait notamment dans le sud-ouest de la France une grande entreprise qui s'appelait la Compagnie du Midi. Et puis on avait donc cette décentralisation. La maille n'existait pas, le réseau n'existait pas encore. Et petit à petit, on s'est dit, ben, finalement, pourquoi on ne mutualise pas ces moyens de production? Pourquoi est-ce que finalement, au lieu de faire démarrer la centrale quand on a besoin et puis en faire redémarrer une autre, eh ben, on ne dit pas, eh ben, on va essayer d'avoir une centrale qui marche tout le temps, donc un système de base, et d'échanger l'électricité sur le territoire et de garantir d'autant plus, grâce à cette mutualisation, l'approvisionnement d'électricité en France. Et pour faire cela, finalement, alors qu'il y avait plus de 90 entreprises concédées avant la guerre, eh bien, il était décidé, en 1946, de créer un service national de l'électricité, et donc de créer EDF, qui aurait les fonctions de base de l'électricité, qui sont d'abord la production, la génération d'électricité, les centrales donc, deuxièmement le transport de l'électricité, troisièmement la distribution de l'électricité, l'électricité qui arrive chez vous, et puis quatrièmement la commercialisation, c'est-à-dire vous achetez de l'électricité auprès d'un fournisseur. Ce modèle a donc été créé, et puis s'est posé la question dans le cadre de la réflexion sur la mise en concurrence, sur l'ouverture des marchés dont vous avez dû parler ce matin, c'est posé la question de savoir comment on passait au un nouveau fonctionnement du marché. Alors donc, hein, l'organisation du marché avant 2000 précisément, hein, donc c'était un système monopolistique. Vous voyez au centre, vous avez EDF, un producteur, transporteur et distributeur d'électricité. EDF qui peut se fournir à l'étranger, des fournisseurs étrangers lorsqu'il en a besoin, ou qui peut faire appel à d'autres producteurs qui sont extrêmement marginaux. Hein. Ce sont quelques tout petits producteurs qui n'ont pas été nationalisés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment importants. C'était surtout beaucoup de petits barrages, petits barrages hydrauliques, mais avec une obligation d'achat d'EDF lorsque ces barrages produisent de l'électricité, pour que donc EDF ait le véritable monopole, notamment en matière de transport de l'électricité. Et puis EDF donc, vend cette électricité évidemment la tutelle et les pouvoirs publics qui jouent ce rôle de vérifier que, en tant que monopole, EDF joue pleinement ses missions, donc vend cette électricité, soit auprès de clients français, et notamment les particuliers, soit auprès de quelques distributeurs, parce qu'il y a eu quelques exceptions et quelques distributeurs qui n'ont pas été nationalisés. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis, auprès de clients étrangers, hein, des exportateurs, c'est l'exportation de l'électricité auprès de nos pays voisins en particulier. Donc, jusqu'en 1999, EDF assure l'optimisation de tous les moyens de production en France. Donc c'est le seul fournisseur des clients hors distributeur non nationalisé. Vient donc ce processus de libéralisation du marché de l'énergie, donc une volonté fortement européenne, avec un certain nombre de principes qui ont été définis par les directives. j'ai mis le nom des directives, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, qui sont donc la première directive européenne de 1996 qui organise l'ouverture du marché, un renforcement de cette organisation à travers la deuxième directive de 2003, et puis ce qu'on a appelé le troisième paquet énergie qui est passé récemment, hein, qui est passé en juin, et qui a visé à aller encore plus loin, parce qu'on a constaté qu'il y avait un certain nombre de déficiences dans l'organisation de ce marché. Alors, dans la première et la deuxième directive, la première en particulier, donc on a défini des grands principes. Premièrement, la séparation des activités, hein, entre donc la production, le transport, la distribution et la commercialisation. L'accès non discriminatoire au réseau, c'est-à-dire que toute personne qui veut acheter de l'électricité ou qui veut vendre de l'électricité, eh bien, peut le faire de façon libre en quelque sorte, la liberté de le faire. L'éligibilité progressive des consommateurs, c'est-à-dire que la possibilité pour un consommateur d'acheter de l'électricité par lui-même, ben, ce n'est pas fait directement, il y a eu plusieurs étapes, on y reviendra. Et puis donc, l'idée, c'était aussi de l'édification d'un marché européen, c'est d'avoir de plus en plus des lignes électriques, des interconnexions entre pays qui puissent permettre des échanges et qu'on arrive finalement à un seul prix, en quelque sorte, sur le marché européen. Donc voilà, quels étaient les grands principes de cette ouverture. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ce que vous voyez là. Je ne sais pas si on arrive à lire, oui, à peu près. Donc, à gauche, le cube rouge, c'est donc les producteurs d'électricité. Il y a à peu près 650 centrales de production en France. Hein, donc c'est les centrales nucléaires, environ une cinquantaine, les barrages, hein, tous les hydrauliques, les centrales thermiques. Et puis, tout ce qui va être énergie renouvelable, l'éolien, la biomasse, photovoltaïque. Donc, il y a à peu près 650 points de production en France. À cela, il faut ajouter l'énergie importée. Hein, on est importateur d'énergie, hein, environ une vingtaine de jours par an, maintenant. On est de plus en plus importateur d'énergie. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, cette production, eh bien, elle est transportée par RTE, le réseau de transport d'électricité. Elle est transportée donc dans un réseau qui est le réseau dit à haute et très haute tension. Alors qu'est-ce que c'est que le réseau à haute et très haute tension? Eh bien, ce sont toutes les lignes au-delà de 50 000 volts. Vous avez du 220 volts chez vous. Eh bien, entre 50 000 et 220 volts, c'est ce que l'on appelle les réseaux de distribution. Hein. C'est une entreprise qui s'appelle ERDF qui est en charge de cela. Alors, dans le transport d'électricité, on différencie la très haute tension, THT, très haute tension, c'est au-delà de 200 volts, c'est 225 000 et 400 000 volts. C'est, grosso modo, ce sont les lignes en particulier qui sortent des centrales nucléaires, hein, pour pouvoir injecter d'électricité vers les grands centres de consommation. Et il y a une petite flèche qui part du transport d'électricité qui va vers l'industrie. Pourquoi? Parce que nous fournissons directement l'électricité à un certain nombre de sites en France, à peu près 550, qui sont ce qu'on appelle des électro-industriels. Certains d'entre vous, peut-être, font partie de ces entreprises. Hein, c'est toutes les entreprises de la métallurgie, de la sidérurgie, de la chimie, de l'automobile en particulier, donc qui nécessitent dans leur process industriel de l'énergie, énormément d'énergie, et donc on les fournit directement en haute tension. Bien sûr, on va aussi fournir les pays voisins, exporter l'électricité. Générés par les producteurs qui ont des contrats avec l'étranger. Et puis, le dernier point, c'est que le distributeur, lui, va apporter l'électricité d'abord chez les particuliers, chez vous, et puis, donc, sur les non-électro-industriels, et en particulier euh, les petits petites et moyennes entreprises. À ce niveau-là, il faut savoir que ceux qui vous apportent les PME, PMI, les particuliers et les autres, maintenant, ont la possibilité de choisir leur fournisseur. Simplement, lorsque vous choisissez votre fournisseur, le fournisseur va utiliser le réseau de transport d'électricité et le réseau de distribution pour vous apporter l'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous sommes un monopole naturel. Un monopole naturel parce qu'on n'imaginerait pas que chaque producteur ait son propre réseau d'électricité. C'est-à-dire qu'il y a des câbles partout en France, ça n'aurait absolument aucun sens. Et ça n'aurait, en termes d'optimisation économique, ça n'aurait aussi aucun sens. D'où l'importance, en tant que monopole naturel, d'être régulé. Sinon, on fixerait nos prix comme on veut. On va dire que transport d'électricité, de toute façon, vous n'avez pas le choix, si vous voulez acheter l'électricité, vous passez par là. Donc on pourrait dire 100, 200, donc nous sommes régulés, donc il y a un régulateur qui s'appelle la commission de régulation de l'énergie, c'est le petit carré en haut, et la commission de régulation de l'énergie, donc va avoir pour but de vérifier que, un, nous transportons l'électricité de façon non discriminatoire, auprès de tous, et que deux, les prix que nous proposons correspondent bien à nos coûts de revient. Et que donc, nous n'abusons pas de notre position de monopole. Je vais revenir sur tous ces concepts. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'en termes de production, EDF représente 90% de la production. Donc, l'opérateur historique reste le principal producteur d'électricité en France. J'insiste un tout petit peu sur la séparation des activités qui est au cœur de cette ouverture du marché de l'électricité. Donc, la production et la commercialisation sont ouvertes à la concurrence. C'est ce qu'on appelle le secteur dérégulé de notre jargon. Tandis que les infrastructures de transport, elles font partie du secteur régulé. Nous sommes soumis un certain nombre d'obligations strictes de non-discrimination, et nous sommes soumis en particulier à quatre niveaux de séparation. Séparation d'abord comptable, c'est-à-dire que nous devons avoir par rapport à notre actionnaire, qui est pour l'instant EDF, être comptablement totalement séparé. De façon générale, donc, le manager doit être aussi totalement séparé de sa maison mère, ainsi que d'un point de vue juridique. Alors la séparation de propriété, ça a été un grand débat récemment, vous avez peut-être lu des articles dessus. C'est posé la question de savoir si, oui ou non, une entreprise comme RTE, qu'elle soit en France ou dans le reste de l'Europe, doit être séparée de l'opérateur historique. RTE, l'actionnaire unique de RTE, pour l'instant c'est EDF, donc à 100%. On peut dire, ben oui, mais à ce moment-là, nous sommes jugés partis. Nous transportons l'électricité, non seulement d'EDF, mais Caisse de France Suez et des autres producteurs. Comment pouvons-nous nous assurer que nous allons jouer le jeu? Donc la Commission européenne a dit, vous êtes dire tout ce que vous voulez, moi, je considère qu'il faut séparer la propriété et donc qu'il ne doit y avoir aucun lien entre RTE et EDF. Idem en Allemagne, parce que le système est le même en Allemagne, même si ce sont des entreprises privées, donc E.ON possède le réseau de transport d'électricité dans une partie de l'Allemagne. Il y a quatre producteurs qui se partagent le réseau électrique allemand. Et donc c'est le même système qu'en France. Le producteur historique est aussi celui qui est l'actionnaire du réseau de transport. Donc c'est ce que les Anglais appellent dans leur jargon l'unbundling. Faut-il ou non une séparation de propriété? La France, l'Allemagne et un certain nombre d'autres pays ont estimé. Peut-être que vous en avez parlé ce matin ou
non. À peine, non. Non. Ça a été estimé, évoqué.
Ont estimé que ça n'était pas la peine. Et ils ont pris, nous avons pris l'exemple français de RTE. Il n'y a pas un seul producteur autre que EDF qui s'est plaint jusqu'à maintenant du rôle de RTE, du rôle que l'on pourrait jouer de favoriser EDF. Personne n'a considéré que nous avons franchi la ligne jaune et que donc nous aurions favorisé EDF par rapport aux autres producteurs. Donc nous avons dit, nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles il faudrait séparer, puisque notre modèle marche. C'est ce que nous avons appelé, c'est français, la troisième voie, la voie, la voie où l'on a la possibilité d'avoir une séparation complète entre le producteur et le transporteur. Il y a une voie où le producteur va dire je délègue, je sous-traite ça à une entreprise complètement indépendante, privée. Et puis il y a une voie qui est la nôtre, qui est de dire on peut rester actionnaire, mais on a un régulateur très fort qui assure notre indépendance. Et finalement la Commission européenne a reculé. Elle considérait que cette voie était possible, et que donc on pouvait être l'actionnaire d'opérateur historique, mais à des conditions extrêmement strictes. Par exemple, nous, c'est donc le troisième paquet énergie qui est passé au mois de juin, par exemple, avec ce troisième paquet énergie, l'état-major de RTE ne sera pas en mesure de rejoindre EDF pendant 3 ans. Et ne sera pas en mesure d'être EDF avant de rejoindre RTE dans les 3 ans qui précèdent. Donc il va y avoir une sorte de quarantaine, des clauses de quarantaine de cette manière-là. Et juste pour vous donner un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, pour qu'il y ait une indépendance complète entre RTE et EDF, et partout, de la même façon, en Europe. Il faut aussi que vous sachiez que le modèle de RTE, entreprise publique, n'est pas forcément le modèle européen. Nos amis britanniques, nos amis espagnols, nos amis italiens ont leur entreprise cotée en bourse. Donc un réseau de transport d'électricité peut exercer des missions de service public, tout en étant une entreprise qui va être listée. L'important, c'est qu'elle soit régulée. Les Belges, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'obligation. Tous les systèmes sont possibles. Pour que ça marche, il faut que la mission soit bien définie et qu'elle soit bien régulée. Les grandes étapes de l'ouverture du marché français de l'électricité, ça a commencé à partir de 1999 avec à peu près 200 sites éligibles à l'ouverture, qui représentaient 20% de part du marché. Donc c'était des sites qui consommaient plus de 100 gigawattheures. Et puis, petit à petit, jusqu'au 1er juillet 2007, où là, 34 millions de sites éligibles à l'ouverture, donc 100% du marché. Donc c'est la consommation française, 478 TWh. Donc depuis le 1er juillet 2007, comme vous le savez peut-être, je le dis que vous savez parce que les sondages montrent que peu de Français, en fait, la majorité des Français ne le savent toujours pas, en fait, vous avez la possibilité de changer de fournisseur d'électricité. Je n'ai pas parlé du gaz naturel, mais c'est le même principe. J'y reviendrai un tout petit peu, je parlerai de l'organisation du marché du gaz, mais on reste un peu dans le même principe. Et donc, au 31 décembre 2007, tous les consommateurs peuvent choisir leur fournisseur, donc 100% du marché est ouvert. Et donc, vous voyez, il y a eu des quotas à partir de 1000, de 20% jusqu'à 100%. Le transport d'électricité, RTE, juste quelques mots supplémentaires. Comme je vous le disais, donc nous sommes une société anonyme depuis 2005, donc une filiale de RTE. La loi de 2004 stipule en France que notre capital doit demeurer entièrement public. C'est-à-dire que si EDF choisit de se séparer à 100% d'une partie de notre actionnariat, eh bien cet actionnariat devra rester public. L'exemple auquel on peut penser, c'est celui de la Caisse des dépôts, hein, qui pourrait être devenir actionnaire de RTE, par exemple, sans difficulté, selon la loi. Peut-être, vous vous demandez, mais au fond, quel est l'intérêt d'EDF de garder RTE dans ces conditions? Quel est le sens pour EDF? Je vous donne une interprétation qui est personnelle, je ne peux pas vous assurer que Pierre Gadonex vous dirait la même chose, mais je pense ne pas être trop loin de la vérité. Fred, c'est purement financier. Hein, pour faire un calcul très rapide, on a un peu le livret A d'EDF. EDF, c'est à peu près 100 milliards. Bon, ça bouge avec la capitalisation bourse, etc. Mais pour être rapide, on va dire que c'est 100 milliards. Donc, on présente à peu près 10 milliards dans le capital d'EDF. Et on leur verse 300 millions d'euros de dividendes par an. Donc, ça fait du 3%. Donc, c'est comme si vous avez placé 10 milliards hein, de leur capital, 10% de leur capital, et que ça rapportait 3% par an. 3%. Alors, ils se disent peut-être, un jour, je vais avoir un investissement qui est plus rentable que 3%, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont fait des achats, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et donc, ils vendront les actifs, parce qu'ils ont trouvé mieux que cela. On voit très souvent des sociétés d'assurance qui seraient très intéressées à acheter RTE. RTE ou un autre gestionnaire de réseau en Europe. Pourquoi ? Parce que ça leur rapporte, c'est une rente en fait. Notre tarif d'électricité est fixé pour avoir une profitabilité, un rendement brut d'environ 7,5% par la CRE. Et donc, après l'impôt, ça fait à peu près du 3%. Donc, c'est une rente qui peuvent intéresser des investisseurs institutionnels. Qui cherchent des rendements longs et des rendements sûrs. Donc voilà le type d'investisseur qu'on peut imaginer pour RTE. Donc RTE assure des missions de service public, je vous en ai parlé, hein. Un traitement non discriminatoire, ça c'est fondamental pour nous. Deuxième chose qui est fondamentale, c'est garantir la sûreté du système électrique et la qualité de fourniture. Comme vous le savez, l'électricité, ça ne se stocke pas. Donc, qui dit que ça ne se stocke pas, ça veut dire que quand vous rentrez chez vous et que vous mettez la lumière, eh bien, vous faites marcher une centrale. Tout moment. Si vous faites marcher une centrale, il faut bien qu'il y ait l'assurance que lorsque vous allez allumer la lumière, eh bien, on trouve la centrale qui existe. Donc, notre rôle, c'est d'assurer l'équilibre entre votre demande à vous, celle des particuliers, celle des industriels, et de l'autre côté, l'offre d'électricité. Et donc, nous allons nous assurer tous les jours que nous allons faire des prévisions. Voilà, aujourd'hui, nous pensons que l'électricité, compte tenu de la météo, compte tenu des 10 dernières années, compte tenu, etc., l'électricité va faire telle courbe de consommation. Et nous nous assurons que les producteurs ont bien prévu d'être au rendez-vous. Donc, nous avons des mécanismes d'ajustement hein, qui permettent de faire l'ajustement marginal au dernier moment. Et c'est ça, ça fait partie de nos missions. Nos missions, c'est pas seulement d'avoir des lignes fiables, c'est aussi d'assurer la sécurité entre l'offre et la demande d'électricité.